cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le record du monde du marathon a été battu. J'espère être assez bref pour être dans, pas dans, dans les temps de ce record, mais je vais essayer de m'en approcher, Daniel. Mais ce qui m'a été donné à traiter est repris dans deux chapitres, donc c'est costaud, quoi. Donc je vais faire un effort quand même. Voilà, on a abordé le thème de la prédication dernièrement, et aujourd'hui on aborde le thème de la réconciliation, donc le résultat du pardon. Donc aujourd'hui on aborde la réconciliation, ensuite au pardon, c'est ça? Oh là non, c'est pas ça. Oui, je dois avouer que j'ai eu une période d'insomnie cette nuit. Et c'est... Voilà. Bon, vous connaissez tous Abraham, vous connaissez tous son fils Isaac. Vous savez qu'Isaac s'est marié avec Rebecca. Rebecca était la mère de jumeaux appelés Jacob et Ésaü, ou Ésaü et Jacob, parce que Ésaü est né le premier. Et pendant sa grossesse, Rebecca a vécu une expérience un peu particulière. Mon épouse n'a pas été enceinte puisqu'on avait un problème de stérilité dans notre couple. Mais les femmes enceintes que je rencontre disent que c'est agréable de sentir que l'enfant bouge. On sent que l'enfant grandit, qu'il va arriver bientôt. Mais Rebecca, il y avait quelque chose de vraiment anormal. Ça grouillait, ça n'allait pas. Et en Genèse 25-23, l'Éternel lui en explique la raison. Oh, il ne faut pas encore sortir vos Bibles là, parce que vous aurez encore l'occasion. Et le Seigneur a dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. Ésaü est devenu un chasseur, et Jacob était un berger. Un jour, Ésaü revient de la chasse affamé, parce que quand on veut traquer un animal, il faut de la patience et il faut rester silencieux. Donc il revient de la chasse affamé et il a vendu son droit d'aîné, son droit d'aînesse qui lui apportait des avantages évidents, des bénédictions. Il a échangé ce droit contre un plat d'aînesse, c'est ce qu'on apprend à l'école du dimanche en général, je pense. Oui? Ok. Il n'y avait pas d'école du dimanche dans mon église à l'époque. On était trop petits. Isaac préférait Ésaü, son aîné. Il aimait la viande, il aimait le gibier. Et Rebecca préférait Jacob. Souvent, dans les familles, on a comme ça une préférence. Mais un peu plus tard, Isaac annonce qu'il va bénir son fils aîné. Et son fils aîné part à la chasse, et au retour de la chasse, la bénédiction était promise. Rebecca a entendu tout ça, évidemment. Rebecca a envie de faire passer son plus jeune avant. Il est si gentil, il est berger, enfin, il est calme. Et Rebecca organise toute une mise en scène et finalement cette bénédiction revient à Jacob en Genèse 27, versets 28 et 29. Jacob avait en fait trompé son père et son frère avec la complicité de sa mère. Et en Genèse 27, verset 41, Ésaü révèle qu'il tuerait Jacob après le décès d'Isaac, son père, leur père. Rebecca l'apprend. Et elle envoie Jacob à Haran, chez son frère Laban, donc le frère de Rebecca. Il devait y rester jusqu'à ce que la colère du dupé soit apaisée. 20 ans s'écoulent. 20 ans. Jacob, le trompeur, a vécu une sacrée expérience chez son beau-père. Il a été trompé lui-même à plusieurs reprises. Et un jour, il en a vraiment marre. Il décide de rentrer au pays. Et Dieu lui apparaît et dit, Il lui demande même de retourner au pays de ses pères, auprès de sa parenté. Et il dit qu'il va le protéger dans cette expédition. Jacob veut rentrer au pays, mais il sait que tôt ou tard, il va rencontrer son frère. Le problème est grand. Jacob ne s'attendait pas à une réconciliation, il s'attendait à un choc violent. Il envisageait des pertes, mais en tout cas, il n'avait jamais songé à une réconciliation. Au bout de 20 ans, Ésaü a-t-il oublié ? Maintenant, je vous invite à prendre vos Bibles et à prendre Genèse, chapitre 32 et 33. Le lendemain, de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria, « C'est ici le camp de Dieu !» Et il nomma ce lieu Mahanaïm, les deux camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü, au pays de Séir, dans la steppe des hommes. Et comme la note en bas de votre Bible dit, c'est au sud-est de la mer Morte qu'il habitait. Il leur donna les instructions suivantes. Voici ce que vous direz, Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bovins et des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes. Et j'en fais informer mon Seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et le voilà qui vient à ta rencontre. » Avec 400 hommes, Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Car il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le détruit, celui qui restera pourra encore échapper. Puis Jacob pria, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as béni, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur, car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. Et maintenant, je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer, sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, toi tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Il choisit dans ce qu'il avait à sa disposition de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il les confia à ses serviteurs par troupeaux séparés, en leur disant, « Passez devant moi et laissez une certaine distance entre chaque troupeau. » Puis il donna les instructions suivantes au premier serviteur. « Quand tu rencontreras mon frère Ésaü, et qu'il te demandera quel est ton maître, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau qui te précède ?» Tu répondras, « C'est à ton serviteur, Jacob, et ce troupeau est un cadeau qu'il t'envoie, mon Seigneur Ésaü. » Lui-même arrive derrière nous. Il donna les mêmes instructions au deuxième serviteur, au troisième, et puis à tous ceux qui allaient marcher derrière les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à Ésaü quand vous le rencontrerez. Et dites-lui bien, voici ton serviteur Jacob vient lui aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Ensuite, je paraîtrai devant lui et peut-être me permettra-t-il de le regarder en face. Les bêtes offertes en cadeau s'en allaient donc devant lui, et lui-même passa cette nuit-là dans le camp. Dans la nuit, il se leva, emmena ses deux femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartient, Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. » La traduction. Une autre traduction d'Israël, c'est « Dieu combattra, Dieu lutte. » Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Jacob l'interrogea, « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Le soleil se leva quand il passa le gué de Penuel. Jacob boitait de la hanche. Je saute un verset, je passe au chapitre 33. Jacob regarda droit devant et aperçut Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Alors il répartit ses enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et les siens, derrière eux, et finalement Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver devant son frère. Ésaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Tous deux se mirent à pleurer. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. « Qui sont ceux-là avec toi » demanda-t-il. Jacob répondit, « Ce sont là des enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis Léa et ses enfants vinrent se prosterner, et enfin Joseph et Rachel. Ésaü demanda, « Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai croisé ?»« C'est un cadeau pour obtenir la faveur de mon Seigneur. »« J'ai beaucoup de biens, mon frère, » dit Ésaü. « Garde ce qui est à toi. »« Non, » dit Jacob, « je t'en prie. »« Si j'ai obtenu ta faveur, accepte mon présent, car je t'ai vu en face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc, je te prie, le présent que je t'ai fait parvenir, car Dieu m'a accordé sa grâce, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Il insista tant qu'Ésaü finit par accepter, et il dit, « Partons et marchons ensemble, j'irai devant toi. » Mais Jacob répondit, « Mon Seigneur, c'est que les enfants sont fragiles. De plus, j'ai avec moi mes brebis, des chèvres et des vaches qui allaitent. Si on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur aille donc devant son serviteur, je te prie. Et moi, j'avancerai tout doucement au pas du troupeau qui me précède et de celui des enfants pour aller rejoindre mon Seigneur à Séir. » Ésaü suggéra, « Dans ce cas, je laisserai avec toi une partie de mes gens. À quoi bon ?» répondit Jacob. « L'essentiel pour moi est d'avoir obtenu la faveur de mon Seigneur. » J'irai jusque-là seulement. La réconciliation. Avec cette histoire, nous apprenons au moins trois manières de résoudre un conflit. Le premier, c'est l'éloignement et l'attente. Mon propre père ne m'a pas bien éduqué dans ce sens. Parce que mon père, quand il y avait un différend avec quelqu'un, il préférait, je ne vais pas dire se cacher, mais il préférait ne plus en parler. Et il espérait que le temps allait résoudre les problèmes. Mais je pense que c'est une très mauvaise solution parce que ce problème reste là pendant des années. Et qu'est-ce que ça provoque finalement? C'est une mauvaise communion avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, quelque chose qui reste là. C'est comme si vous avez mangé quelque chose qui reste là sur l'estomac. Ça, vous n'êtes pas bien pendant tout un temps. Donc je dirais que ça, c'est une manière que je n'approuve pas. Laisser le temps passer. Et ça peut être intéressant quand même. Parce que si on avait vu la tête d'Ésaü après que Jacob ait reçu la bénédiction patriarcale, je pense qu'il aurait mangé tout cru. Jacob annonce son retour à son frère. Très vite, les messagers rapportent qu'il arrive. De manière pas très pacifique, puisqu'il a quand même 400 hommes avec lui, ça sous-entend que ça va peut-être chauffer un peu. À ce moment précis, je pense qu'Ésaü pensait encore à se venger. Jacob craint pire, et il divise ses biens en factions, pour être sûr qu'une partie pourrait s'échapper, pour être certain qu'il va pouvoir sauver quelques meubles. Mais il prie aussi. Il avoue sa petitesse devant Dieu. Souvenez-vous, Jacob a reçu une bénédiction. Une bénédiction très intéressante. Dieu n'a jamais cessé d'être fidèle et de bénir Jacob par des biens nombreux, des troupeaux. Il a eu des enfants. Je ne veux pas dire qu'il voulait absolument avoir deux femmes et deux servantes avec qui il aurait des enfants, mais Jacob avait une préférence, vous le savez, il ne voulait que Rachel. Mais Laban lui a fait peut-être comprendre, pendant son séjour là-bas, que c'est l'aîné qui passe avant. Léa, l'aînée, est passée avant. Et c'est ce que Laban lui a fait comprendre, donc. Il a dû travailler de nombreuses années pour obtenir ces deux femmes. Il ne les a pas reçues, il a dû les payer. Depuis Péniel, depuis que Jacob a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Mais Jacob était un homme prudent et il est difficile de changer un tempérament. Quand vous avez acquis de mauvaises habitudes dans votre jeunesse, ça vous colle encore à la peau pendant de très nombreuses années. Pendant tout un temps. Il a reçu la bénédiction de Dieu à Péniel, mais pourtant il divise encore ses biens, il divise encore ses femmes en groupe. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Les deux frères se rencontrent et ils s'embrassent paisiblement. Ésaü n'a tout à coup plus envie de se venger. Je pense que c'est Dieu qui a répondu à la prière de Jacob et qui a changé le cœur, qui a changé les dispositions d'Ésaü. Tout le mérite dans cette affaire revient finalement à Dieu. À Dieu qui avait promis des tas de choses à Jacob, une postérité, il a promis de le protéger, il a promis de le bénir. Et il a sans doute oublié, comme nous aussi souvent nous oublions, que nous sommes bénis par le Seigneur. Souvenez-vous aussi du camp d'anges qui était près de Jacob. Je me souviens que dans l'histoire d'Israël, à un certain moment, un ange passe dans le camp ennemi et dans une seule nuit, cet ange tue 185 000 personnes, 185 000 ennemis. Évidemment, Jacob était de ce côté-ci de cet événement. Enfin, je veux dire, cet événement devait encore se produire. Donc il n'avait pas encore acquis cette confiance. Et combien nous-mêmes nous avons peur. La bénédiction patriarcale d'Ésaü était certes mal acquise, mais très précise. relisez pour vous-même Genèse 27, versets 27 à 29. Jacob a voulu aider Dieu. Il a voulu agir sans Dieu. Il en a trop fait. Et s'il avait laissé Dieu agir, il se serait épargné pas mal de nuits blanches, pas mal de soucis. Au travers de cette histoire que nous avons lue, je conclus que nous ne devons jamais essayer de régler un conflit pour obtenir la réconciliation sans en parler d'abord à Dieu. Il faut inclure Dieu à tous nos plans, à tous nos projets. Nous qui vivons de ce côté-ci de la croix, nous bénéficions de nombreux conseils donnés dans la Bible. Depuis que nous avons accepté le sacrifice de Jésus et que nous nous sommes repentis, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça a déjà été rappelé ce matin. Nous sommes devenus des fervents lecteurs de la Bible. Et nous connaissons donc tous des passages tels que celui que je vais vous lire maintenant, en Philippiens 2. Depuis que nous connaissons le Seigneur Jésus, notre mentalité est tout à fait changée. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons des priorités différentes. Je lis à partir du verset 1er. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à revendiquer son égalité avec Dieu jusque-là. Ça, c'est la mentalité qu'un chrétien devrait posséder. Ça, c'est la mentalité qui empêcherait que nous entrions en conflit avec n'importe qui. Si nous sommes revendicateurs, le Seigneur nous dit, nous fait comprendre que la colère sera inévitable. Nous pouvons nous épargner pas mal de misère si nous devenons humbles comme le Seigneur Jésus, qui n'a pas exigé de son Père d'avoir les attributs à portée de main. Jésus s'est voilé, il a voilé ses attributs, il les possédait. Jésus est resté humble tout au long de son chemin sur terre. Le seul moment où Jésus a fait apparaître un tout petit peu de sa gloire, c'était au mont de la Transfiguration, quand trois de ses disciples ont vu que Jésus était Dieu et qu'ils l'ont vu dans sa gloire d'antan, dans la gloire qu'il avait avant de devenir homme. Je répète, le pardon et la réconciliation ne sont hélas que possibles que par présentation d'excuses. Des excuses que la partie adverse peut accepter à condition qu'elle veuille bien nous rencontrer. Quand nous avons un différend et que nous allons trouver la personne avec qui nous avons ce désaccord, elle ne veut pas toujours nous accepter, elle ne veut pas toujours parler avec nous. C'est triste, évidemment. Dans ce cas, il faut remettre la colère de Dieu, la colère qui nous envahit à Dieu et demander que sa justice se fasse. Vous pouvez retrouver un chapitre en corrélation en Romains 12, verset 19, je pense. Comment obtenir le pardon et la réconciliation? C'est une leçon de choses. Vivre dans un monde déchu, tel que notre monde, c'est être témoin de nombreux conflits, c'est devoir subir de nombreux conflits. Voici quelques conseils pour parvenir à la réconciliation. Il faut savoir présenter des excuses. Et présenter des excuses, c'est un art, ça s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Avant de vous lancer dans un processus d'excuses, il faut suivre quelques conseils. Quand vous vous approchez de quelqu'un à qui vous présentez des excuses, il faut exprimer le regret. Dire qu'on est désolé. Cela montre à la personne blessée qu'on ressent de la culpabilité, de la honte et de la douleur en constatant qu'on a profondément blessé l'autre. Un langage corporel peut être nécessaire. Il ne faut pas passer dans la pièce et dire à quelqu'un « Ouais, je suis désolé. » Ou bien quand vous rentrez dans un bus, il y a quelqu'un devant vous « Pardon !» et puis vous foncez, vous donnez encore un coup. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut pas bousculer. Le langage corporel est parfois plus fort que des mots. Il importe de préciser pourquoi on est désolé. Un regret sincère ne s'accompagne pas de blâme, dans le sens de « oui, je me suis comporté comme ça, mais il faut savoir que toi, tu m'as poussé jusque-là ». Non, ça il ne faut pas faire, il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Le regret sincère ne s'accompagne pas de blâme. Il ne faut pas attaquer. Parce que si on attaque, on n'obtient pas le pardon et pas la réconciliation non plus. Parfois, la personne blessée attend plus que « je suis désolé ». Elle attend que je dise « je suis en faute ». Je n'ai aucune circonstance atténuante. J'ai agi par égoïsme. Je regrette de ne pas t'avoir considéré dans ma prise de décision. Je regrette d'avoir exprimé de la colère. J'espère que tu me pardonneras. Parfois, la personne blessée attend aussi que nous proposions de réparer le tort par un service. À la maison, on peut proposer à son épouse de faire la vaisselle, de passer l'aspirateur. Il faut prouver à l'autre que cette autre personne a de l'importance. Il faut savoir prononcer des paroles valorisantes ou offrir un cadeau, pas trop cher évidemment. Je pense au cadeau que Jacob voulait offrir à son frère Ésaü. Jacob a offert 500 animaux à son frère, plus de 500 pièces de bétail. Il faut aussi savoir parfois mettre la main sur l'épaule de celui qu'on a froissé et peut-être serrer d'un peu plus près son épouse si on l'a blessé. Ce sont des choses qui arrivent. Blesser quelqu'un en public exige des excuses devant ces mêmes personnes. Vaché est descendu de l'arbre à la demande de Jésus. Et Jacob, Zaché s'est engagé à rembourser ceux qui l'avaient taxé injustement. D'autres encore souhaitent qu'on leur demande pardon, qu'on insiste sur ce pardon. C'est le passage obligé. Il y a des personnes qui seront contentes avec le « je suis désolé », d'autres qui sont d'accord avec moi, mais ici, il faut demander pardon et vraiment supplier le pardon. C'est montrer qu'on veut vraiment obtenir la réconciliation. Quand j'ai préparé le sujet sur la colère, j'avais lu dans un bouquin qu'à un certain moment, un couple aux États-Unis, on est venu à tirer avec des armes à feu l'un sur l'autre. Mari, la femme. Ça va loin. Je ne dis pas qu'il faut en arriver là. Il y a des moyens. plus paisible. Donc il faut supplier l'autre de nous accorder le pardon. Quand on a franchi toutes ces étapes, on peut espérer obtenir la paix avec l'offensé. C'est parfois difficile de demander pardon, ça nous coûte. C'est difficile aussi parfois de demander pardon aux enfants. Ça montre qu'on est vulnérable, qu'on a fait une faute, on risque peut-être de perdre une partie de notre autorité. Ah, papa, toi aussi, qui? C'est très difficile d'être parent. Demander pardon, c'est admettre qu'on s'est trompé. Je le répète, la réconciliation a un prix énorme. Et qu'en est-il dans l'Église? Après sa résurrection, le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples de rester à Jérusalem en attendant quelque chose de précieux. Il avait promis un don particulier. Lisez pour vous-même Actes 1, versets 4 à 8. Ce don particulier, c'est le don du Saint-Esprit. Quand les disciples furent baptisés dans le Saint-Esprit, vous pouvez remarquer que l'Église s'est développée. L'intervention du Saint-Esprit est absolument nécessaire dans l'Église. Elle est nécessaire à sa survie. Elle est nécessaire à son développement. C'est grâce au Saint-Esprit qui nous habite que nous devons nous efforcer de penser et d'agir conformément aux principes bibliques. En tout temps, nous devons manifester le fruit de l'Esprit. Je vous le rappelle. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je ne devrais pas dire « et » parce que c'est un tout. Jésus-Christ nous a exhortés à nous aimer les uns les autres, à être des témoins fidèles, humbles. C'est dans ce sens que j'ai lu le passage en Philippiens. Il faut être humble, il faut faire passer les autres avant nous. Il faut savoir se taire, il faut savoir ne pas revendiquer, il faut savoir renoncer à ce que nous pensons être le meilleur pour l'Église. C'est difficile parfois, dans un conseil d'Église, de faire passer ses idées. Parfois, il vaut mieux se taire. Le silence est parfois d'or. Pas dehors, mais en or. Donc je veux dire qu'il a une grande valeur. Il faut se soumettre les uns aux autres. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas prendre parti. Il faut renoncer à la médisance. Et je répète, il faut se pardonner les uns les autres. Le maintien de la paix et de l'unité doivent absolument figurer sur le blason de chaque Église. Nous devons étudier et appliquer les principes bibliques qui mènent à la réconciliation en cas de désaccord, car vous savez qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Je vous recommande la lecture de Galates 5. Galates 5, je vais le lire. Je suis encore largement dans les temps du record. Galates 5, verset 13. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous laissez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs des hommes livrés à eux-mêmes, car leurs désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, la haine, les colères, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je saute au verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Lisez aussi chez vous cet après-midi Jacques 3, versets 13 à 18. En cas de conflit entre membres de l'Église locale, l'amour et la prière nous guident. J'ajouterai l'humilité. Amour, prière, humilité. L'amour cherche à réconcilier et à réparer les relations détruites. L'amour ne trame pas le mal. Il abandonne les injustices passées entre les mains de Dieu. L'amour ne nourrit pas de ressentiment et ne réveille pas d'anciennes blessures. J'étais membre d'une église dans le passé et un frère responsable avait fait un péché. Il avait demandé pardon en public. J'étais excusé auprès de la personne concernée. Mais dans le rassemblement, des personnes se plaisaient à lui rappeler ce qui s'était passé. C'est une chose qui ne va pas se faire, évidemment. Je trouve ça regrettable. L'amour offre le pardon à l'offenseur. Ne négligeons jamais la prière, car nous ne voulons pas laisser Dieu en dehors des conflits. Dieu nous place dans un état d'esprit surprenant. Depuis quelques années, quand j'ai une décision difficile à prendre et que je sais que la discussion risque de devenir animée, je prie d'abord. Et je constate que les conversations, que les rencontres sont beaucoup plus calmes et que ça se passe bien en général. Cette semaine, j'ai eu une épreuve un peu particulière. J'ai placé un travail chez un patient l'année passée. Mais ce patient a fait une attaque cérébrale peu de temps avant que je place ce travail. Et il a quelques problèmes d'élocution. En général, quand on place les gens dans de nouvelles positions, les patients ont pendant quelques jours des troubles de phonation, des troubles d'élocution. Et le monsieur, depuis qu'il a eu son AVC, son accident vasculaire cérébral, ça ne va plus comme avant. Et son épouse me l'a dit, mais Donc il voulait que j'apporte une solution. J'avais peur de cette rencontre parce qu'on m'avait averti, le représentant de la société qui avait vendu des marchandises avait dit oui, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'a pas été utilisé selon les normes. J'en ai parlé à mon prothésiste. Le prothésiste a pu me confirmer que les pièces étaient celles vendues par le fabricant des implants. C'était un travail sur implants. Et finalement, j'ai eu très peur. Je me suis dit, oui, qu'est-ce que ça va être? Et j'ai prié le Seigneur. Seigneur, je lui ai dit, je te fais totale confiance dans cette confrontation. Seigneur, veuille bénir le patient aussi, que les choses puissent s'arranger pour lui. Et donc, je dis, c'était la confrontation. Il avait le patient, son épouse, le représentant de la société des implants qui avait dit qu'on n'avait pas pris les bonnes pièces, mais finalement elles étaient bonnes quand même. Et il y avait mon prothésiste, et moi évidemment, puisque c'est chez moi que ça se passait. Et finalement la rencontre a été assez pacifique, je dirais. Le problème n'est pas encore résolu, parce que le patient est un assureur qui a souvent des affaires à traiter avec des avocats. Et il y a un avocat qui a proposé ses services dans cette affaire. Et il m'a montré l'expertise, donc le patient est allé voir un expert. C'est une affaire compliquée. Mais je pense que les choses vont s'arranger avec l'aide du Seigneur, parce que on a meulé un peu à un certain endroit en bouche chez ce patient, et son élocution est déjà meilleure. Mais il y a encore un chemin assez long à parcourir parce que ce patient s'adapte plus difficilement depuis qu'il a son accident vasculaire. Et son épouse derrière mon dos l'a même dit au représentant. Donc, vous voyez, j'ai des circonstances atténuantes. Mais quand on se retrouve devant un problème, on s'imagine des tas de choses. Oui, je pourrais dire ça. Je n'ai pas insisté sur le problème de l'accident vasculaire devant le patient. Ça aurait été l'amoindrir, l'humilier, lui. C'était pas nécessaire, mais il y a encore des choses à faire, des petits ménages à faire, des réglages supplémentaires. Mais c'est une affaire qui m'avait pris à cœur, qui m'a réveillé la nuit. Et évidemment, c'était un travail d'une grande ampleur et qui coûte assez cher. Et si je dois le faire, je ne sais pas si ce sera mieux. Donc ici, il y a peut-être bénéfice du doute. Enfin, pour vous, ce n'est pas un problème majeur. C'est mon problème, mais je veux simplement exprimer le fait que le Seigneur est venu à mon secours, qu'il a arrangé les choses, il n'y avait pas d'animosité, tout s'est passé dans le calme. Et je revois le patient prochainement et j'ai content que je vais le revoir pour essayer de trouver encore d'autres solutions. Donc, ne vous lancez pas dans un processus de pardon et de réconciliation sans faire intervenir le Seigneur. Nous sommes ses enfants et c'est notre devoir de faire appel au Seigneur. Nous ne voulons pas manigancer, nous voulons obtenir son aide, sa sagesse. Et c'est ce que je pense le Seigneur attend de nous. Pour résumer tout ça, la manière la plus efficace pour obtenir de la réconciliation dans une église, c'est de ne pas en avoir besoin finalement. C'est d'être en paix avec tout le monde, d'être humble, de faire passer les autres avant, de savoir se taire parfois, de ne pas revendiquer à l'exemple de Jésus. De prier beaucoup, de nous aimer, de toujours nous dire la vérité. Faisons tout pour ressembler au Seigneur Jésus.